Sud Radio, toute vérité est bonne à dire, 21h-22h30, Didier Maistre.
De fait, il fumait bien son champ de tabac à lui seul, allumant chaque cigarette avec le mégot de la précédente, ce qui, quand il conduisait, embarquait la deux chevaux dans un rodéo improvisé. Le mégot, serré entre le pouce et l'index de la main droite, la cigarette nouvelle au coin des lèvres, il fixait attentivement la pointe rougie, sans plus se soucier de la route, procédant par touches légères, tirant des petites bouffées méthodiques jusqu'à ce que s'élève au point de contact un mince filet de fumée. Alors la tête rejetée en arrière pour ne pas être aveuglé, bientôt environné d'un nuage dense qu'il balayait d'un revers de la main, il soulevait du coude la vitre inférieure battante de la portière, jetait le mégot d'un geste vif. Et toujours sans un regard pour la route, donnait un coup de volant arbitraire qui secouait les passagers en tous sens. Conscience émoussée par la vieillesse ou après une longue existence traversée d'épreuves, un certain sentiment d'immunité. Sur la fin, il n'y avait plus grand monde pour oser l'accompagner. Les cousins adolescents avaient inventé, cela arriva deux ou trois fois, on se voyait peu, de se ceindre le front d'un foulard ou d'une cravate, emprunter à leur père et de s'installer à ses côtés en poussant le banzaï des kamikazes. Le mieux était de répondre à leurs gestes d'adieu par des mouchoirs agités et de pseudo-versements de larmes. Au vrai, chacun savait que la lenteur du véhicule ne leur faisait pas courir grand risque, mais les interminables enjambements de lignes jaunes, les errances sur la voie de gauche, les bordures mordues sur lesquelles les roues patinaient, entraînant la deux chevaux dans un pénible mouvement de ressort, les croisements périlleux, en descendaient verdâtres comme d'un train fantôme. Bonsoir les amis, ces quelques lignes sont dues à Jean Rouault pour un magnifique roman, Les Champs d'honneur, aux éditions de Minuit. Tiens, je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque et j'avais noté dans cette première page blanche, cadeau de moi à moi-même, j'avais signé Didier, le 20 novembre 1990. Et donc, vous avez sans doute, vous êtes beaucoup à avoir vécu en deux chevaux, ou en quatre ailes, ou que sais-je encore, en 404, en 504, en 204, en R8, ces petits moments privilégiés avec votre grand-père qui fumait une cigarette ou qui n'était pas tout à fait le meilleur des conducteurs, mais sans doute vous gardez ça au fond de vous comme des moments de bonheur. Et je ne sais pas si le bonheur existe vraiment, comme chantait Jane Birkin, fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Je crois qu'il y a des moments simplement de bien-être, des moments limpides, comme disait tout à l'heure Lara Fabian, des moments d'une grande évidence qui s'imposent à nous et qui arrivent comme ça, sans prévenir, qui déboulent dans notre vie, qui ne sont pas toujours très, très rationnels. Eh bien, ce soir, beaucoup d'actualités. Vous nous direz ce que vous en pensez au 0826 300 300 sur Sud Radio. Le Premier ministre a fait sa conférence de presse entourée d'un certain nombre de ministres concernés sur le déconfinement. Donc il a confirmé d'abord la levée progressive du confinement à partir du 11 mai avec quatre régions qui restent en rouge, c'est pas une surprise. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et bien sûr Mayotte. Et donc dans ces territoires-là, la sortie du confinement se fera sur des bases plus strict. En Île-de-France, ça sera particulièrement strict. Par exemple, pour éviter la saturation des transports en commun aux heures de pointe, il faudra une attestation employeur ou un motif impérieux de se déplacer. Et en même temps, les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés resteront fermés. Une nouvelle attestation sera nécessaire au-delà de 100 km. Elle sera disponible sur le site, a dit Monsieur Castaner du ministère de l'Intérieur, et à partir de lundi, il sera possible de sortir librement dans la rue sans attestation, dans une limite de 100 km, et il a précisé à vol d'oiseau, autour de sa résidence, et au-delà de cette limite, une nouvelle donc attestation sera nécessaire, et ça ne concerne pas les déplacements au sein d'un même département. Le masque sera obligatoire pour les plus de 11 ans dans tous les transports en commun, sinon c'est une amende de 135 euros. Et les frontières resteront fermées, mais il n'y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes vulnérables, même en Île-de-France, le gouvernement, l'exécutif, table sur l'esprit de responsabilité de chaque citoyen et donc desserre un petit peu les taux. Pour ce qui est de la réouverture des écoles et des collèges, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé que pratiquement 90% des communes avaient préparé la rentrée pour la semaine prochaine. Et enfin, dans les annonces, on peut retenir que 475 millions d'euros seront débloqués pour les EHPAD, et comme les soignants, les personnels des établissements pour personnes âgées ou handicapées recevront une prime. Voilà. Alors vous nous direz donc au 0826 300 300, les amis, ce que vous avez retenu, ce que vous avez pensé de cette conférence de presse, de ce déconfinement progressif. Pour ma part, moi, j'ai trouvé que l'exercice était pas trop mal réussi, assez sobre, mais évidemment, par rapport au confinement et par rapport surtout à l'impréparation et à l'incurie des différents gouvernements qui se sont succédés depuis 2012, puisqu'il n'y avait pas de masques et pas de tests. Confiner, c'était facile. Déconfiner, c'est beaucoup plus difficile. Et nous verrons s'il y a un rebond ou pas et si on peut poursuivre sur cette voie. En tout cas, l'exécutif a vraiment insisté sur la responsabilité de chacun, sur l'esprit civique et a annoncé un certain nombre de mesures, notamment impliquant l'assurance maladie avec tout un tas de un process à suivre si vous avez des symptômes, si vous avez été en contact, l'assurance maladie avec une personne infectée vous contactera, etc., etc. Je ne vais pas plus loin dans le détail. Voilà, voilà. Et tout de suite, nous avons Marguerite qui nous appelle de Toulouse pour nous parler, ça rime, d'Over the Blues, une association. Bonsoir Marguerite.
Bonsoir.
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 Bien vous en...
Vous m'entendez ? Oui.
Nous vous écoutons avec attention.
Merci, je suis très contente d'être en direct. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Je voulais vous parler effectivement de l'association Over the Blues, qui s'écrit B-L-U-E-S, et qui est née en Île-de-France, à Versailles exactement, au début du confinement, pour répondre aux cris d'alarme d'établissements de santé qui étaient en pénurie de surblouses. Donc une créatrice de robes de mariée à la base a créé un patron simple pour confectionner des surblouses réutilisables dans une démarche éco-responsable de zéro déchet. Des blouses qui sont fabriquées à base d'anciens draps de lit en coton et cousues par toute une équipe de couturières et de livreurs qui sont bénévoles et qui sont répartis aujourd'hui vraiment dans toute la France. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 20 000 blouses qui ont été livrées aujourd'hui dans des EHPAD, dans des hôpitaux, à Necker récemment. 202 antennes, je crois, qui sont réparties sur toute la France et au Luxembourg, qui regroupent 3500 bénévoles. Voilà. Et pour nous, ce confinement, ça nous a vraiment aidé à donner du temps pour les autres, de pouvoir se mettre au service de la société, des soignants et de se rendre utile malgré le fait qu'on soit coincé à la maison.
Oui, parce qu'on a vu effectivement beaucoup, surtout le territoire français, qu'est-ce qu'on fait de ce temps ? Bon, évidemment, il y a les gens qui travaillent, qui sont en télétravail, pour qui c'est compliqué, beaucoup plus compliqué. Hein, d'ailleurs, nous, on en est un exemple vivant à Sud Radio, ouais. Puisqu'on a continué à travailler, que tout est plus compliqué parce que ça prend plus de temps, le téléphone, les liaisons, voilà. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'emploi, soit qui sont au chômage technique, soit qui sont à la retraite, soit qui ont été malades et qui ont décidé d'aider les autres et de se dire dans ce moment particulier, il faut qu'on fasse quelque chose, pour les autres, quoi. Et donc voilà, on a vu fleurir très très vite des distributions de nourriture.
Voilà. Et puis permettre aussi de transmettre, c'est important de transmettre auprès de ses enfants. Qui sont confinés chez nous, pareil, à la maison, qui vont pas à l'école, qu'il faut occuper malgré l'école à distance. Et voilà, de pouvoir transmettre ce savoir-faire de couture et ce sens du bénévolat et du service qui est très important.
Eh bien, merci pour ce témoignage, Marguerite,
Voilà.
de Toulouse. I was born Toulouse, comme chantait l'ami Nougaro, Over the Blues. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à vous.
Au revoir.
Merci, au revoir. Et tout de suite, nous avons Perrine qui nous appelle de Paris. Son compagnon est dans les forces de l'ordre. Et elle veut nous parler justement de cette organisation des forces de l'ordre durant la crise. Bonsoir Perrine.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors
comment ça se passe chez les forces de l'ordre ?
Alors moi je suis compagne de policiers et depuis le début du confinement, on a des fonctionnaires de police qui sont sur tous les fronts. Vous les croisez très certainement quand vous allez faire vos courses et ils vérifient vos attestations. Et aujourd'hui, on va avoir ce changement complet dans notre vie, dans leur vie et dans la nôtre. Ça va être avec cette question des 100 kilomètres. Alors déjà, ils étaient pas, c'était pas masqué, ils n'avaient pas forcément de matériel de protection, hein, puisque le ministère de l'Intérieur nous avait bien signalé que les fonctionnaires de police ne faisaient pas face au virus, hein, ils ne subissaient aucun risque et ils avaient ordre pour certains de ne pas porter le masque. Soit disant que c'était des ordres locaux et par initiative personnelle. Mais
il y a eu trois types de décisions par rapport à ça. Les Français, on leur a dit que ça ne servait à rien maintenant. Vous avez vu la dernière conférence de presse.
C'est ça.
Et d'ailleurs, dans le monde entier, tout le monde s'accorde à dire que s'il y a un outil indispensable, efficace, c'est le masque, absolument. Ce que tout le monde avait compris sans faire 10 ans d'études de médecine dès le premier jour, dans la mesure où c'est un virus qui se transmet par postillon essentiellement. Ça, c'était quand même le premier mensonge, n'ayons pas peur des mots. Pour les forces de l'ordre, on leur a dit, vous ne serez pas en contact du public et c'est pas la peine de porter des masques. Et pour les pharmaciens qui avaient réussi à s'en procurer, on leur a dit « vous n'avez pas le droit de les vendre ». Alors tout ça, pour aboutir en fait, ne sont que les enfants d'une même source, je dirais, c'est que des masques, il n'y en avait pas, tout simplement.
Tout à fait, il n'y en avait pas suffisamment, il n'y en avait pas assez. C'est pour ça qu'on remercie des associations comme celle précédemment mentionnée qui vont coudre des blouses pour les soignants. Il y a des associations et notamment l'association Femmes des Forces de l'Ordre en Colère qui ont la chance d'avoir des couturières. Alors je ne suis absolument pas couturière, je suis désolée de ne pas savoir faire ça. Mais en tout cas, on a des membres de l'association qui ont confectionné des masques, qui en ont donné à des pharmaciens, à des soignants, à des infirmières, mais aussi à des forces de l'ordre, parce que justement, il y avait cette espèce de non-protection. Et en fait, derrière, la colère des familles, parce que vous voyez, moi je suis compagne de policiers, quand mon compagnon rentre de service, je crois que j'ai jamais eu un budget aussi important de lessive, parce que justement, c'est le nettoyage des uniformes, c'est vraiment vérifier à ce que tout soit plutôt propre quand il retourne au travail et plutôt propre quand il rentre du travail. Donc il y a toute une organisation qui est faite parce que justement, ils peuvent être en contact du public. La majorité du temps, ça se passe très très bien. Sauf que il y a d'autres moments où ça se passe plutôt mal. On a pu le voir dans certaines banlieues où justement les trafics de drogue ne prenant plus ou alors étant plus compliqués, il y avait des tensions qui se créaient avec d'autres personnes aussi qui refusent complètement le système d'attestation et qui refusent de sortir avec ce type de papier, vont directement à l'altercation avec les forces de l'ordre, leur crachent au visage et ce genre de choses. Quand vous n'avez pas de protection, ça peut constituer un risque et un risque aussi pour les familles parce que aujourd'hui, je sais très bien que même si le déconfinement est annoncé pour le 11, on ne pourra pas forcément aller voir nos amis, nos proches, nos familles, parce qu'ils sont, parce qu'on les mettrait nous-mêmes en danger. Je suis potentiellement porteuse asymptomatique d'un virus X ou Y, et c'est pas le moment d'aller mettre en péril certaines autres personnes. Donc voilà, c'est pour saluer toutes celles qui vont confectionner ces masques, notamment à Mulhouse. On a une équipe très très active, mais aussi dans le sud de la France, et elle distribue ça avec un grand sourire et du soleil, et ça fait plaisir.
Eh bien oui, merci Perrine. Et effectivement, ce soir, il a été insisté sur le civisme dont doivent faire preuve tous les citoyens, parce qu'évidemment, il y a les outils, il y a les masques, il y a la la distanciation sociale, il y a les mesures qui sont prises dans les transports en commun, dans les entreprises, mais rien ne remplacera, bien sûr, les gestes du quotidien pour que chacun essaie de faire un petit peu attention aux autres. Allez, avant de reprendre au téléphone Jean-Marie de Cahors, qui est directeur des Gîtes de France et qui aura beaucoup à nous dire, son point de vue sera intéressant parce qu'on imagine à quel point le secteur va être impacté ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que c'est l'occasion de redécouvrir le bon sens près de chez vous, comme disait une certaine publicité. C'est peut-être pas le bon sens, mais c'est la beauté de tous nos paysages français. Allez, on va faire une petite pause qui s'impose avec Camille, Prendre ta douleur.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se taire dans le tiède de tes reins?
Radio, toute vérité est bonne à dire, Didier Maistre.
Prendre ta douleur, beaucoup de nos concitoyens l'ont fait, ont essayé de prendre la douleur des autres quand ils en avaient eux-mêmes parfois de la douleur. Moi, je ne sais pas si vous êtes déjà fait cette réflexion. Finalement, il y a deux catégories de gens. Alors, Gide disait les subtils et les mollusques, c'était un peu méchant. Mais il y a des gens qui sont capables de prendre la douleur des autres et ceux qui vous l'envoient en pleine face tout le temps en disant « Ah, je souffre ». Et donc ça, c'est aussi à la faveur du confinement. Ça a été un révélateur et un révélateur plutôt heureux et plutôt positif puisque beaucoup se sont ligués, organisés pour venir en aide aux gens qui en avaient le plus besoin. C'est un des effets positifs de ce confinement. Donc tout de suite, je vous l'ai promis, Jean-Marie de Cahors, qui est directeur des Gîtes de France. Bonsoir Jean-Marie, c'est à vous, merci pour votre patience.
Mais il n'y a pas de souci, merci beaucoup de prendre mon appel, merci de me donner la parole. Et bonsoir à tous les auditeurs et à tout le personnel de Sud Radio. Moi je voulais intervenir rapidement pour témoigner aussi effectivement des différents élans de solidarité qu'on a pu connaître. Et moi, je tenais aussi à remercier les propriétaires de gîtes ou chambres d'hôtes du Lot qui sont dans une difficulté aussi, hein, évidemment financière et difficulté aussi de s'y retrouver dans cette cacophonie d'informations différentes
et souvent contradictoires.
Et souvent contradictoires, exactement. Donc, malgré tout, un certain nombre d'entre eux se sont mobilisés et ont organisé soit la fabrication de masques, soit regrouper des commandes ensemble pour s'organiser avec le gel hydroalcoolique, avec les gants, etc., etc. Mais aussi simplement s'occuper un peu, se rapprocher de son voisin qui est dans la même difficulté ou dans une difficulté plus importante, aller faire les courses. Vraiment des petits élans de solidarité ici ou là qui se manifestent. Et puis également, on a eu, vous le disiez, hein, il y a des gens qui sont dans la difficulté et pourtant qui prennent aussi une partie de la douleur de l'autre. Et j'ai quelques propriétaires, enfin un grand nombre quand même, qui se sont dit, nous, le personnel soignant, il faut impérativement qu'on l'aide. On peut pas l'aider pendant le confinement parce qu'on n'a pas les moyens de les accueillir, on n'est pas à proximité des hôpitaux, on peut pas faire grand-chose pour eux actuellement. Mais dans quelques mois, ce personnel soignant aura besoin de prendre des congés, de se reposer, de se ressourcer. Et donc, on a offert 74 séjours à différents services. Alors, il y a l'hôpital Bichat qui a été sélectionné, il y a le CHU Pellegrin de Bordeaux, puisque sur les courts séjours, on a privilégié des hôpitaux qui n'étaient pas très loin. Et les propriétaires des Gîtes de France et Chambres d'hôtes du Lot ont offert 74 séjours. Mais quand je dis offert, c'est en juillet, c'est en août, c'est en haute saison. Et je trouve ça assez remarquable.
Donc c'est des séjours. Donc finalement, vous avez sélectionné des personnels soignants, comme vous l'avez dit.
Alors, on n'a pas vraiment sélectionné des personnels soignants. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a recueilli. Déjà, on a lancé l'initiative. On a dit, le personnel soignant va avoir besoin de prendre des congés après cette crise. Êtes-vous partant pour mener une action, pour conduire une action de solidarité? Bien sûr, tout de suite, tout le monde a répondu. Alors, je vous dis 74, mais je suis pas sûr que ce soit pas même un peu plus. Enfin, toujours est-il que ce qu'on a fait pour qu'il y ait une certaine équité et qu'on soit sûr que les personnes qui bénéficieront de ces séjours aient été directement concernées et impactées, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un certain nombre de séjours directement dans les services réanimation qu'on a sélectionnés, qui ont été les plus impactés, en fait. Donc ça concerne les deux hôpitaux du Grand Est, deux hôpitaux parisiens et le CHU Pellegrin de Bordeaux. Et ces cinq hôpitaux ont reçu un certain nombre de séjours. Ils vont faire un tirage au sort parmi le personnel. Ce qu'on a souhaité, ce qu'on leur a demandé, c'est d'inclure le plus largement possible les catégories professionnelles. Il ne s'agit pas d'écarter les ASH, les infirmiers, les kinés et autres professions qu'on cite souvent un peu moins, mais qui sont là aussi. Donc il y a eu cet élan de solidarité. Et puis plein d'autres petits gestes au quotidien qu'on constate. Et encore une fois, ces propriétaires, mais aussi nous, le personnel de la structure départementale, sommes très très impactés évidemment par cette catastrophe touristique, mais pas que, économique. Et donc forcément, ça va se traduire par probablement, en tous les cas, par la restructuration et un impact fort sur l'aspect social et probablement des licenciements à la clé, hein, parce que c'est on est sur une perte de volume d'affaires, dont à peu près 65% de perte de volume d'affaires. On a annulé tous les séjours, évidemment, de mars, avril, mai, juin. Et puis, grosse incertitude des propriétaires quant à la possibilité d'exercer cet été, puisque se pose la question maintenant de deux jours francs de vide sanitaire entre deux semaines de location. Donc, c'est une question qui est posée par le... Enfin, aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais ça reste quand même dans les tuyaux, si j'ose dire, de l'ARS et les autres services ministériels. Et peut-être que demain, on nous annoncera effectivement un vide sanitaire de deux jours entre deux locations. Donc, les propriétaires reviennent vers nous en nous disant, écoutez, c'est juste pas possible. Et donc, on va pas pouvoir accueillir grand monde cet été, quoi.
On se rend compte, en fait, que chacun doit faire un peu sa part, hein. Parce que évidemment, il n'y a pas un métier, il n'y a pas une profession, il n'y a pas une corporation qui ne sera pas impactée par cette crise et cette mise à l'arrêt du pays. Mais effectivement, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'initiatives. Les gens comprennent, chacun à hauteur de ses compétences, du temps qu'il a, de ses moyens financiers, essaie quand même d'aider son voisin. Et c'est comme ça que pense, hein, on s'en sortira tous, et évidemment on va pas retrouver la vie d'avant tout de suite, et peut-être qu'on la retrouvera jamais, parce qu'on sans être pessimiste, on connaît rien de la saisonnalité du coronavirus. On ne sait pas si certains, comme le professeur Raoul, disent après le printemps c'est fini, et en réalité j'ai beaucoup lu et consulté comme vous sans doute à ce sujet, rien n'est avéré, rien n'est sûr, on ne sait pas à ce jour, on navigue un petit peu à vue de ce point de vue là, quoi. Donc il faut que chacun prenne son mal un petit peu en patience et se réalise peut-être en essayant d'aider davantage de positiver un petit peu les choses et de dire de toute façon on est tous un peu à la même enseigne et donc voilà.
Alors, le côté positif et le côté vraiment qui aura fait réfléchir un certain nombre de gens, et beaucoup de gens d'ailleurs vont réfléchir à ça, c'est à mon sens une autre forme de consommation. Les gens vont forcément consommer différemment, vont se poser un certain nombre de questions quant au risque pris, si j'ose dire, dans la consommation et dans la manière de fonctionner. On a cette chance, nous, d'être dans des milieux plutôt dans un milieu rural, dans un environnement sain où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est vrai. Alors ça peut permettre à certaines personnes de se rassurer et de dire, bah tiens, moi je vais aller en vacances en Corrèze, dans le Lot, en Aveyron, où il y a une fréquentation touristique, certes, mais quand même on est dans des petites structures à taille humaine, où on a moins d'échanges, on n'est pas dans des grosses structures touristiques, voilà, où il y a...
Oui, et puis peut-être qu'effectivement c'est le retour de ce tourisme un peu de proximité.
Exactement.
Vous avez vu à Venise, par exemple, tous les grands centres touristiques sur la planète. Bon, vous avez vu Venise qui a retrouvé dans sa lagune une eau tout à fait limpide, cristalline, absolument magnifique. Vous n'avez plus ces paquebots géants qui venaient comme ça, comme une ville dans la ville. On voyait même plus la place Saint-Marc, on voyait même plus les édifices. Et donc c'est peut-être, hein, que, en tout cas les Vénitiens, c'est sûr, tous les gens qui sont très impactés par le tourisme de masse, ou les gens qui habitent aussi près de j'écoutais ce matin quelqu'un qui était dans un village, dans un hameau qui avait à la fois l'autoroute A10 et le TGV Bordeaux-Paris là, et qui était à 150 mètres dans ce hameau, et il dit là maintenant j'entends les oiseaux, quoi. Bon, alors je dis pas que tout va changer, mais sans doute chacun aura éprouvé dans son quotidien le changement et peut-être la nécessité de mieux prendre en compte un ensemble de paramètres pour que justement on ait tous une vie un peu plus agréable. On n'a pas tous les leviers.
C'est la qualité de vie,
On n'a pas tous les leviers.
Oui.
Voilà, malheureusement, c'est pas toujours nous qui décidons. Hein.
Mais alors, il y a cette forme de remise en question, hein, si j'ose dire, de la consommation, et puis même du mode de fonctionnement dans le travail. Hein. Aujourd'hui, je découvre un certain nombre de solidarités dans les équipes aussi, qui fonctionnent différemment, ils communiquent différemment. Et on est beaucoup en télétravail, évidemment. On est malheureusement beaucoup en chômage partiel. Hein. On n'a pas le choix. Mais globalement, je trouve qu'il y a une meilleure communication, une meilleure entre salariés, une meilleure compréhension de l'autre, une meilleure recherche. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est hyper constructif. Et c'est vrai, vous aviez raison, ce sont des indicateurs qui sont révélateurs. Pas d'un changement de société, je n'irai pas jusque-là. Mais en tous les cas, d'une remise en question d'un certain mode de fonctionnement qu'on a au quotidien. Et puis aussi des valeurs peut-être qui nous ont échappé et qu'on avait un peu perdu de vue, notamment la solidarité, l'écoute, l'entraide entre collègues ou entre clients, fournisseurs. C'est des choses qu'on a peut-être un peu perdu de vue et qui maintenant, on se repose un certain nombre de questions. Et ça, c'est le côté positif.
Oui, peut-être mettre un peu d'huile dans les rouages de notre vie quotidienne. Ça commence par là, ça commence par la forme, je dirais, la politesse, l'écoute, la gentillesse.
Exactement.
Quand on s'adresse à l'autre, et puis bon, certains ne jouent pas le jeu, tant pis. C'est pas la peine de s'énerver. C'est comme
ça.
Hein,
et
tant pis pour eux. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Jean-Marie.
Merci à
bonne soirée.
Radio, et puis bon courage à tous les auditeurs et à tout le monde.
Merci beaucoup. Allez, on va faire une petite pause. Tiens, j'en perds ma voix. Une petite pause musicale avec Dick Angarn. C'est dans les rêves.
Une terrible tornade où cascades, dévalent par vagues, dévalent les étages. Une croisade incroyable, où peuple barbare et château tartare défient le diable. Tu peux partir, tu peux vivre libre ta vie d'amour. Voilà les dires, les doux désirs de ma mère d'amour. C'est dans les rêves que les astres s'élèvent, une école sans élève aux problèmes insolubles. C'est dans les sous-caves que gisent les braves, qui inspectent les oeuvres et insectes insipides. Une vie invivable où succèdent bipèdes et piètres acerbes vers le fond de mon âme. Mais demain il fera beau, je le veux, je le vaux. Demain il fera jour, pour toujours ineffable. Tu peux partir, tu peux vivre libre ta vie d'amour. Voilà les dires, les doux désirs de ma mère d'amour.
Sud Radio, toute vérité est bonne à dire, Didier Maisto.
Et oui, tu peux partir, tu peux vivre libre ta vie d'amour, voilà les dires, les doux désirs de ma mère d'amour. Très belle chanson de Dick Hanegaard, l'ami Dick, si tu nous écoutes, parce qu'il écoute bien Sud Radio, Dick, il nous aime bien, mais on l'aime bien aussi, on l'aime beaucoup. On te fait la bise, mon cher Dick. 0-826-300-300, on est encore ensemble pour une petite demi-heure, et nous avons tout de suite Grégory qui nous appelle de Paris et qui est boulanger. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Monsieur Maisto.
Bonsoir, comment ça va?
Oh, ça va bien, on confine.
Bah voilà, hein. Vous n'avez pas perdu la main pour faire le pain, c'est bon?
Ah bah avez... moi je suis, ça fait 2 mois que je suis arrêté quoi, presque.
Ouais.
Parce que là, il n'y a plus de Parisiens, hein, donc Israël est venu la Grande Armée, et bah, il n'y a plus de touristes et plus de travailleurs au bureau, donc il n'y a plus personne, quoi.
Et alors donc, que c'est votre... Ouais, c'est pas facile, j'imagine. Vous allez réussir quand même à sauver votre activité?
Ah bah c'est moi, je suis juste ouvrier, je suis pas le patron, mais je sais que c'est quand même compliqué votre patron, hein. Parce qu'il a perdu 80% de sa des recettes, on va dire.
Il oui, et puis seul, en plus dans le quartier.
Il y a juste deux vendeuses et c'est tout.
Ouais, ouais. Et puis dans le quartier, les loyers sont hyper élevés. Alors, bien sûr, c'est un emplacement de rêve, hein, magnifique, parce qu'il y a beaucoup de passages.
Oui,
mais il n'y a pas beaucoup de profit et il faut du chiffre, il faut travailler, il faut qu'il y ait du passage, quoi. Parce que là, ouais, pendant ce temps, les loyers continuent de courir et ils sont très élevés. Le prix du mètre carré.
Je sais que mon patron est en train de négocier là, parce que je l'ai vu aujourd'hui, il est en train de négocier pour payer différemment plus tard, mais bon, ça n'a pas été évident. Hein.
Mais j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de propriétaires fonciers qui acceptaient de jouer le jeu, d'étaler les loyers, les échéances. Parce que tout le monde comprend bien que bon, ça touche tous les pans de la population, toutes les strates, toutes les couches, et que là, bah, chacun doit faire un petit peu un effort dans la mesure de ses possibilités. Et on comprend bien que c'est tous ensemble qu'on doit faire des efforts.
Ouais, exactement, oui. Mais moi, je voulais surtout réagir sur par rapport à notre, enfin, notre gouvernement, on va dire, face aux incohérences et aux mensonges qu'ils peuvent dire encore aujourd'hui, nous dire qu'ils vont faire reprendre l'école, les cantines scolaires et qu'ils laissent fermer les restaurants, par exemple. Je trouve ça totalement incohérent. Je comprends pas qu'on puisse mettre, je sais pas, dans les cantines scolaires, c'est peut-être 50, 100, 150 gamins au même temps. Et qu'on refuse un restaurant d'ouvrir pour 30 places, quoi. C'est des trucs. C'est les incohérences.
Non, mais ce qui est très compliqué, c'est en fait, jusqu'à présent, on n'avait pas les tests. Là, aujourd'hui, le Premier ministre a confirmé qu'ils ont montré des cartes, etc. Il y avait le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Ah oui, ça, il nous a montré des cartes. 6 ou 5,
voilà,
6, comme ça.
Voilà. Mais qu'on était en capacité.
Des cartes, des chiffres,
Voilà. Mais enfin, qu'on était en capacité de tester tout le monde. Et sans doute.
Rien, en tout cas, ouais. J'ai pas compris grand chose. Hein.
Ce qu'on a compris, c'est que le confinement avait duré autant de temps qu'il fallait pour deux raisons. Premièrement, pour ne pas saturer les hôpitaux qui étaient complètement débordés, sinon, donc on a étalé le pic. Et deuxièmement, d'être en capacité de fournir des tests et des masques à l'ensemble de la population, ce qui semble être le cas. En tout cas, ça a été annoncé et c'est bien ça qui a prévalu à cette levée progressive du confinement qui aura lieu le 11 mai, donc lundi. Grégory, est-ce que vous m'entendez ? Bon, on a perdu Grégory. Il nous rappellera. Eh bien, allez, on va faire une petite pause musicale. Tiens, on va s'écouter un petit peu Brigitte Fontaine, puisqu'on est dans la boulangerie. On n'est pas très loin. On va écouter le nougat.
Je me réveille avec Andra, je branche la cafetière électrique, je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je donne. J'habite au rond de la rue des douches, y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit: vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti. Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit: écroule-toi, donne-moi du nougat. Écroule-toi, donne-moi du nougat. Chercher, c'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je change de cap. J'enfile un manteau et une cape pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier. Je traverse la ville à pied en cavalant comme une damnée. J'arrive enfin chez un copain qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et il me dit: assieds-toi, donne-moi du nougat. Assieds-toi, donne-moi du nougat. J'ai galopé chez Marina, qui est plus qu'une serpe
tout de suite donné à boire. Je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit alors t'as fait quoi? Moi je lui ai donné le nougat. Là-dessus je vais me faire un pétard et partir pour monter les marches. Elle me fait je viens avec toi. Moi aussi je veux du nougat. 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 Moi aussi je veux du nougat.
Sud Radio, toute vérité est bonne à dire, Didier Maisto.
Mais quel est donc ce nougat chanté par Brigitte Fontaine? Mystère, mystère. 0-826-303-300, nous avons retrouvé Grégory qui nous appelle de Paris. Les liaisons ne sont pas terribles, les réseaux sont très sollicités, vous le savez. Mais nous avons retrouvé Grégory et c'est bien l'essentiel. Rebonsoir Grégory.
Rebonsoir, oui, désolé, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi.
C'est les réseaux qui sont très, très...
Oui, oui, ce sont, tout le monde est à la domicile. Donc. Oui, je voulais dire, c'est un peu pas trop compréhensible leur carte et tout ça. Et ils nous disent, là encore, ils disent beaucoup de mensonges, ils nous disent... Oui, tout le monde est dans le même état, les autres pays, alors que c'est totalement faux. Alors, je sais pas pourquoi ils disent ça, parce que les gens ont Internet, hein, je pense qu'ils arrivent à se renseigner assez bien encore.
Là, on se sent. Je vous donne un seul exemple. Taïwan, oui. C'était Taïwan, aucun confinement, 4 morts.
Oui, oui,
ils avaient tous des masques. Tous des masques, ils ont tous suivi, voilà, des tests, des masques. La Corée du Sud, pareil.
La Corée du Sud, l'Allemagne, l'Israël aussi, masque et test, masque, et voilà, et le pays n'est pas confiné. Il y a juste le pays, je crois que c'est la Suède, qui a pas confiné et qui fait pas tout ça. Bon, ils ont beaucoup de morts, je crois, au même taux que la France, mais voilà, ils n'ont pas confiné, et ça se passe aussi bien qu'en France, on va dire. D'après les chiffres que j'ai pu voir.
Ça sera, avec le recul, on comprendra sans doute que le confinement, c'était... évidemment un pis-aller, quoi. C'était la dernière solution, mais c'est une solution d'échec parce que rien n'avait été prévu en amont et qu'on n'avait pas la capacité à réagir comme on aurait dû le faire, puisque à défaut de se targuer d'être toujours la cinquième puissance mondiale, oui, avec un magnifique système de santé où tout va bien et où les virus ne traversent ni les Alpes ni les Pyrénées, en fait.
Les virus ne traversent pas, mais c'est les gens qui le portent qui traversent les Pyrénées.
Oui,
les
bien Alpes, sûr, bien sûr.
Il ne fallait surtout pas fermer les frontières. Bon, c'est pas grave, tous les autres pays à côté ont fermé leurs frontières, donc ça revenait à la même chose.
Et oui, puis on voit quand même que les pays qui ont fermé leurs frontières ont quand même pu contenir davantage le virus. C'est pas, encore une fois, comme je le disais hier, de la xénophobie ou je ne sais quel mal, c'est juste du bon sens. À un moment, si on fait des clusters, évidemment, cluster, c'est le mot élégant et anglais pour dire frontière, c'est-à-dire on isole un certain nombre de personnes pour ne pas que le virus se propage, et ça, tout le monde peut le comprendre quand même.
Et les pays scandinaves s'en tirent très très bien, à part la Suède, je crois. Alors j'ai vu la statistique, c'était par million d'habitants, nous on est à 350 morts, la Suède est à 250 morts, et après la Norvège, la Finlande sont à moins de 70 morts par million de personnes. Alors il faudrait nous expliquer comment ils font, et nous on n'arrive pas à faire un dixième de ce qu'ils font, quoi. Parce que là,
le gouvernement... Soyons francs aussi, il y a aussi en Finlande, qui est un pays que je connais un peu, il y a moins de densité de population. Voilà, les rapports sociaux ne sont pas tout à fait comme ceux des pays latins. Dans les pays scandinaves, les familles sont moins nombreuses. Il y a beaucoup de gens qui vivent seuls ou en couple, notamment au Danemark, etc. Bon, donc, mais comparons ce qui est comparable. Il n'empêche que vous avez raison, effectivement, il y a eu des meilleurs résultats, et l'Allemagne, et tout ça, c'est surtout les pays qui avaient prévu très en amont, qui avaient des stratégies et surtout du matériel pour y répondre. délit, une déconcentration aussi du pouvoir, puisque on a été au plus près des besoins. Nous, on a quand même limité la casse grâce à l'armée, à Air France, enfin au TGV surtout, à la SNCF qui a pu déplacer. Beaucoup de gens se sont mobilisés pour ne pas que les hôpitaux du Bas-Rhin ou de l'Île-de-France soient complètement saturés et que l'on trie véritablement les personnes que l'on pourrait sauver. On les envoyait dans des départements où les hôpitaux étaient moins saturés. On a limité la casse et on a étendu le pic. Mais quand même, on a bien vu que les pays qui ont réagi tout de suite et qui étaient préparés ont eu des meilleurs résultats.
Mais je comprends pas, parce qu'on aurait pu être beaucoup plus réactif à être préparé, parce qu'on sait que, par exemple, on sait maintenant que le virus vient du laboratoire P4, même si tout le monde qui traitait de complotiste, tous ceux qui parlaient de ça il y a encore un mois, comme Monsieur Berkoff le disait, et tout le monde le traitait de complotiste. Maintenant, je pense plus qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont traité de complotiste. Et Monsieur Lévy a été responsable de ce laboratoire. Monsieur Lévy, c'est qui est le mari de Madame Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. Et ils étaient au courant de tout ce qui se passait dedans, ils savaient que le microbe était sorti, et pourtant ils n'ont rien fait. Ils étaient au courant, puisqu'ils ont une confirmation de plusieurs mails et tout ça que l'Élysée a reçu. Et pourtant, l'Élysée n'a pas bougé. Une semaine avant le confinement, on entendait encore Macron qui disait « Sortez, n'ayez pas peur du Covid ». Et une semaine après, il a tout fermé. C'est de la compétence à ce niveau, c'est incroyable.
On se souvient de effectivement, le président de la République a dit on renoncera à rien. C'était pour l'anniversaire des victimes des attentats. On renoncera pas à notre façon de vivre. Et puis un peu plus tard, sur les Champs-Élysées, il s'est promené pour aller voir une association avec tout un aéropage à côté de lui, en disant il faut sortir. Et voilà. Et puis après, boum, changement absolu de tactique, parce qu'on peut pas parler à ce niveau de stratégie, c'est plutôt de la tactique, et interdiction des lieux non essentiels, comme ils ont été qualifiés par un doux euphémisme, mais quand même, encore, c'est un des effets du « en même temps », le lendemain matin à 8h, les gens ont été appelés aux urnes et se sont rendus. Pas massivement, mais quand même 17 millions.
Il n'y a pas grand monde, j'ai été voté, il n'y avait vraiment personne.
Ouais, mais 17,2 millions de Français quand même.
Oui, quand même. Mais bon, dans mon quartier, je me rappelle, aux Européennes, il y avait la queue dans la rue. Ben là, j'y suis arrivé, il y avait une personne qui votait, c'est tout. Et j'avais été à peu près à la même heure.
Mais après, ils ont dit que c'était pas dans les bureaux de vote. Ils ont dit, parce que les gens, ils étaient pas disciplinés. Et dans les bureaux, ils avaient un stylo. Ils ont dû perdre leur stylo en sortant du bureau de vote. Ils sont allés dans les lieux publics et le long des quais, de Saône, de Loire ou de Seine,
et comme voilà. Madame Macron d'ailleurs.
Voilà. Et là, s'ils ont été inconséquents, et les pouvoirs publics nous ont dit c'est à cause de vous, hein, vous avez propagé le virus parce que vous êtes allé faire bronzette, méchant Français, méchant citoyen.
Alors que dans le même temps, on voyait les Allemands aller au parc tranquillement, et même mon plein confinement français, il y a encore un mois, les Allemands, ils étaient confinés, mais pas tant que ça. Ils avaient fermé les grands magasins, mais les parcs, ils étaient ouverts. On voyait des images, mais on a des amis qui sont en Allemagne, j'ai des amis allemands, et ils me disaient, nous, on se promène comme il faut, ils ont même pas de masque, mais c'est pas grave, je sais pas comment ils ont fait, il y a beaucoup moins de morts, et il faudrait que le gouvernement nous dise comment ça se fait qu'on dépense le même taux par habitant, le même argent par habitant qu'en Allemagne, et qu'on n'a que 8 millions en réanimation, eux, ils en ont 40 000. Il faudra qu'on nous explique comment ça se fait que les Allemands sont beaucoup mieux équipés en services hospitaliers que nous, alors qu'on dépense exactement le même chiffre au PIB. Là, il faudra qu'on nous explique comment ça se fait qu'on dépense autant pour rien, on va dire.
Eh oui, ben là, c'est une vraie question, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé en France, effectivement, pour la santé. Peut-être que les fonctionnaires de santé ne sont pas toujours au bon endroit et dispatchés de la bonne manière.
Moins de travail dans les bureaux, plus dans les hôpitaux.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vrai pour toutes les professions, on va dire, à vocation. La paperasse a complètement fait changer tous les métiers à vocation. Donc, que vous soyez aujourd'hui chef d'établissement d'un collège, enseignant, policier ou aide-soignant ou médecin, chef de service, vous devez vous transformer pratiquement en contrôleur de gestion, en secrétaire, en expert comptable, et vous faites plus du tout le métier que vous avez choisi et qui est souvent une passion. Mmh. Et oui, on espère que tous les bilans seront tirés en toute sérénité pour ne pas qu'on, à l'avenir, au moins, on reproduise ces mêmes erreurs, mais rien n'est moins sûr. Nous verrons oui. bien. Merci, merci Grégory.
Merci, au revoir.
Bonne soirée à vous. 0826 300 300, nous avons Pierre qui nous appelle de Frontignan. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors vous avez vendez des produits bio, vous.
Je commercialise des produits de nettoyage bio pour tout type d'activité, on va dire.
D'accord. Donc voilà. Sans produits chimiques, avec des produits naturels. Moi, c'est ce que j'achète, par exemple, pour nettoyer ma salle de bain. Vous allez tout savoir, hein. J'ai des produits bio qui coûtent pas plus cher, qui se sentent très bons, avec des fleurs, etc. Donc on n'utilise pas de la Javel, des produits toxiques, mais ça nettoie aussi bien et ça sent bon. Et on fait un petit geste aussi bien pour le packaging que pour ce qu'il y a à l'intérieur, pour notre environnement.
Non, mais c'est clair que c'est important parce que quand on a vu l'idiotie, on va dire, de certaines communes qui se sont mis à désinfecter des rues à tout va, notamment avec des produits à base de Javel. Enfin, moi, ça m'a fait bondir, quoi.
Aujourd'hui qu'on désinfectait les écoles alors que les écoles sont fermées depuis 2 mois. Voilà. Alors là, je me suis posé pas mal de questions. Je me dis, tiens, le virus peut vivre quelques heures sur des surfaces inertes. Les classes sont désertées, les établissements sont fermés depuis le mois, mais on javelise.
De toute façon, il y a quand même un scandale là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on est, effectivement, comme vous parlez des écoles, mais comme on peut parler de nombreuses entreprises, hein, qui sont fermées depuis la mi-mars, et qui veulent impérativement désinfecter à tout va. Faut quand même savoir que ça ne sert strictement à rien. Parce que effectivement des locaux qui sont fermés depuis plus de 2 mois, il n'y a aucun intérêt de les désinfecter. Ça c'est une certitude. Alors il y a un business qui s'est créé autour de ça. Beaucoup de gens se sont improvisés entre guillemets entreprise de désinfection, alors qu'ils en avaient certainement jamais fait de leur vie, et qui se sont mis à utiliser des techniques qu'ils ne maîtrisent pas, des produits qu'ils ne maîtrisent pas, et on fait un peu du grand n'importe quoi, quoi. Mais comme souvent en France, hein, c'est pas nouveau.
Il faut dire que dans les différents labels bio, alors là c'est un maquis un peu inextricable, la France est la championne du monde sans doute des labels. Vous avez des labels, quand on s'intéresse un peu notamment à la nourriture, vous avez au moins, je sais pas moi, une dizaine de labels, label rouge, bio, naturel. Par exemple, les produits bio pour la nourriture, c'est simplement un type de graines. Pour l'élevage, pareil, il y a un peu moins de poulet par mètre carré, mais ça n'a rien de bio.
C'est ça. Mais vous savez, nous, dans les produits, c'est la même chose, hein. Vous avez un label, vous avez, en fait, dans les produits, on a un peu moins de labels, on en a surtout deux. On a un label européen qui est Ecolabel. Et on a un produit qui s'appelle EcoCert. EcoCert est une entreprise privée, hein, qui a imposé ce label quasiment au niveau national et surtout au niveau gouvernemental.
C'est pas un organisme tiers de certification, c'est ça que vous nous dites.
Si, ouais, c'est-à-dire qu'ils font des certifications. D'abord, il faut savoir que ça coûte les yeux de la tête pour avoir des produits certifiés. Hein, je vous donne juste un petit exemple. Moi, j'ai mon fabricant qui est en France, basé à côté de Reims. Je lui achète des produits et j'ai créé une marque blanche. C'est-à-dire que quand les produits arrivent chez moi, ils sont réétiquetés à ma marque. Je ne touche pas aux produits, j'ouvre pas les bidons ni quoi que ce soit. Et ben par étiquette créée, ça m'a coûté 40 euros.
Voilà. C'est fantastique. Donc, que vous reversez à qui en fait?
À cet organisme.
À l'entreprise.
Voilà.
Vous savez, en France comme ça, je me suis intéressé un jour à ce genre d'organisme, au commissariat, au conseil. Conseil supérieur. Il y en a 1000 en France et ça coûte 1,5 milliard d'euros par an.
ça.
Vous savez qu'il y a des organismes comme ça, 1000, c'est pas rien, hein. Des gens qui sont nommés par le pouvoir politique, hein. Et en fait, ça c'est la généreuse République française, qui sont là pour vous empêcher de tourner en rond et qui réfléchissent. Alors, vous avez le Conseil supérieur du dopage, vous avez des trucs sur des conseils supérieurs sur les machines hydrauliques, sur les pompes à pression.
Ouais, surtout.
C'est tout à fait créatif et on vous dit vous avez pas le droit. Et si vous voulez avoir le droit de faire ça, il faut payer.
C'est ça.
C'est quand même.
C'est ça. Moi, pour distribuer mes produits, bon là, de toute façon, j'ai laissé tomber parce que j'ai laissé tomber la labellisation EcoCert parce que moi, le fabricant est déjà certifié EcoCert. Donc ah oui. Moi, on me demandait de repayer simplement parce que je mettais une étiquette à ma marque. Et en tout, j'en avais pour entre 8 et 10 000 euros, quoi. Donc, pour rien. Donc, mais c'est vrai pour tout. De toute façon, il y a un argent en France qui est gaspillé à tous les niveaux, que ce soit dans des organismes comme ça, mais que ce soit dans les strates politiques qu'on a en France. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous voyez qu'on a, des mairies, on a des conseils départementaux, on a des conseils régionaux, au milieu de ça, on a des communautés d'agglos, on a des communautés de communes, on a des SICTOM, on a des préfectures. Ben bon, je veux dire, faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Ça nous coûte un fric,
Des métropoles maintenant, avec des départements qui sont vidés de leur substance. L'exemple phare, ça doit être sans doute dans le département du Rhône et à Lyon. Donc à Lyon, c'était Gérard Collomb qui avait œuvré et milité, qui avait réussi d'ailleurs à créer la première métropole française, la métropole de Lyon. Donc vous avez la métropole de Grand Lyon et puis le département du Rhône, mais qui n'a plus finalement la ville de Lyon et toutes les villes importantes, etc., mais qui a été taillé sur mesure et qui n'a que des territoires un peu reculés, ruraux, mais c'est le Rhône toujours. Et malgré tout cela, nous avons diverses strates et tous ces organismes lèvent de l'impôt. Et quand vous payez une facture d'électricité, par exemple, au hasard, vous avez 50% avec des taxes qui sont dues à ces différents organismes, pour ceux qui transportent le courant, pour la péréquation, enfin bon, on s'en sort pas.
Il y a un nombre de personnes incalculables, même au niveau quand vous voyez le nombre de fonctionnaires territoriaux qui ont les mairies aujourd'hui. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Moi, je vois, j'habite une petite ville, hein, Frontignan, on est 22 ou 23 000 habitants. Quand on voit le nombre de personnes qui bossent à la mairie, le nombre de véhicules de la mairie qui tournent, etc., mais c'est dément, quoi. Ça nous coûte un fric monumental pour, à la sortie, ne pas avoir de service, en plus, quoi. C'est ça, le pire.
Alors, quand on regarde froidement les chiffres, beaucoup d'efforts ont été faits, contraints et forcés, parce que les différents gouvernements qui se sont succédés ont dit on va pas remplacer plus d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, etc., etc. Il y a trop de gras, il faut dégraisser le mammouth, avec du l'autre, etc. Bon, ça partait très bien, peut-être d'un bon sentiment, parce que en France, il y a énormément de fonctionnaires et pas forcément où il en faudrait. C'est pas le problème des fonctionnaires en général. Par exemple, dans la justice, dans l'hôpital, etc., on a besoin de personnel agissant, de personnel qui vont au contact, etc. Voilà. Et pendant ce temps-là, donc on a dégraissé d'un côté et a explosé la fonction publique territoriale avec beaucoup de népotisme, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de nominations hors cadre, hors concours, dans les cabinets pléthoriques. Voilà.
C'est ça, parce que nous, on le voit, par exemple, si on veut répondre, par exemple, à un appel d'offres, hein, d'une mairie ou d'une communauté de communes, etc., on a des dossiers monumentaux à monter. Enfin, bon, bref, c'est catastrophique. À côté de ça, la mairie ou la communauté de communes va se permettre d'embaucher des mecs à 3 000 euros par mois, parce que c'est le copain de la copine, du machin, voilà. Tout marche comme ça. On marche sur la tête complètement, parce que même au niveau national, on parlait des hôpitaux, mais quand on voit aujourd'hui le pourcentage d'administratifs qui a monté dans les hôpitaux, c'est catastrophique. Enlevons un peu des administratifs et remettons du personnel soignant. Là, ça sera déjà beaucoup plus efficace.
C'est devenu un système à la Brésil, hein, quand vous avez un accident quand vous avez un problème de santé, tout de suite on vous demande la carte vitale, le machin, le ci, le là, avant de... Voilà. C'est un truc, il faut l'avoir vécu, hein. Vous rentrez dans un hôpital, alors vous avez un personnel soignant qui est super, qui est débordé, qui est super attentif, qui est vraiment impliqué, auquel on ne rendra jamais assez hommage, et puis vous avez à côté beaucoup de gens qui sont là par l'opération du Saint-Esprit et qui ne sont pas tout à fait productifs, mais c'est le système français qui a produit cette espèce d'imbroglio, c'est que strate, chaque quinquennat, septennat avant, on devait simplifier. François Hollande lui-même parlait du choc de simplification, et en fait, on a empilé les administrations, les collectivités locales et territoriales, les organismes administratifs, et au bout du bout, c'est un peu comme les impôts. Quand on est dans l'opposition, on les critique, mais on est bien content de les retrouver, et après, on ne les supprime jamais. En tout cas, merci Pierre pour ce témoignage. Passez une bonne soirée à l'écoute de Sud Radio, et on va prendre très très rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes, Yves qui nous appelle de Paris. Bonsoir Yves.
Oui, bonsoir Didier, merci pour votre émission.
Puis, soyez un peu synthétique, oui. Parce que malheureusement il nous reste pas beaucoup de temps, je suis désolé.
Ouais, c'est pas grave. Je voulais faire un peu de prosélytisme, excusez-moi, dans cette période de refondation des idées. Je vous parlais d'un mouvement, pas une partie politique, un mouvement d'idées politiques, mais au sens noble du terme, qui s'appelle République souveraine, et qui essaye d'agréger les différentes personnalités autour du thème de la souveraineté dans différents domaines, hein, la laïcité, le militaire, le médical, la santé, etc. etc. Donc, c'est un site qui a été créé, un mouvement qui a été créé par Georges Kuzmanovitch, je crois que vous connaissez.
Et, oui, tout à fait.
Voilà, et donc qui essaye de fédérer un petit peu tous les esprits, je dis bien les esprits, hein, parce qu'il s'agit de partager des idées, les esprits des gens qui sont intéressés par la reconquête de la nation, pour le bien commun, le bien de tous, dans l'idée de créer cette république sociale qui était la caractéristique particulière de la France. Voilà, c'était...
Eh bien merci, on rappelle le nom de ce mouvement, la République souveraine, et j'imagine qu'on trouve les renseignements en tapant ces trois mots sur Internet.
Absolument.
Merci beaucoup Yves, merci, passez une bonne soirée. Eh bien, écoutez les amis, voilà déjà l'heure de prendre congé. Et demain, il n'y aura pas d'émission parce que chacun va se reposer. C'est le 8 mai, la victoire, n'est-ce pas? La victoire en chantant, la victoire en confinant. On se retrouvera lundi pour ce rendez-vous désormais quotidien. Merci à toute l'équipe de Sur Radio. Merci à Camélia au standard. Merci aux différents réalisateurs, Jamel, Thibaut, Maxime, merci plus généralement à toute mon équipe qui a fait preuve vraiment de solidarité et d'un véritable esprit d'entreprise comme on l'aime, dans le partage, la bonne humeur, sans compter son temps, pour que vous ayez une antenne digne de ce nom. Allez, j'ai commencé avec Jean Rouault, les chants d'honneur, je vais finir avec Jean Rouault. De retour à la maison, grand-père monta se réfugier dans le grenier. Depuis son installation chez nous, dans le cadre de sa mission d'aide humanitaire, il s'était attribué 2 fonctions, en dehors desquelles il ne ferait rien lui demander. Les courses qui lui prenaient la matinée, Monsieur Burgot devint rapidement célèbre auprès des commerçants qui le félicitaient de son dévouement, et le rangement du grenier, initiative personnelle à laquelle il consacrait ses après-midi. Entendons les courses pour être dehors et le grenier pour avoir la paix. Eh bien voilà peut-être... tout un programme pour le déconfinement. Ce n'est pas du en même temps, ce n'est pas du simultané, c'est du l'un après l'autre, dans ce parfait équilibre que nous recherchons tous. J'écoutais tout à l'heure, juste avant, dans l'émission d'Yvan Cujus, Lara Fabian, et j'ai noté cette phrase qui m'a bien plu. J'aime l'imperfection, l'aspérité, la recherche de la perfection, cette exigence nous coupe d'une grande part d'humanité. Alors acceptons-nous tels que nous sommes, avec nos différences, nos aspérités. Prenons tout en bloc, prenons-nous tous en bloc et regardons plutôt ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise et nous fait nous disputer et nous fait nous diviser jour après jour. Voilà, on se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien. Salut !